Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Voici spécialement pour vous le retour des tomates tueuses. Ça devrait faire un malheur, non? Ça va? Vous êtes à l'aise devant votre poste? Bien collé dans le fauteuil? Bon.
Une tomate! Oh, une tomate!
Bonjour Claude Colliot.
Bonjour.
Alors, je sais que vous n'aimez pas les tomates tueuses, mais vous aimez les tomates de votre potager.
Oui, elles tuent aussi, mais...
mais sur, à
elles
l'autre
tuent
sens,
bien, voilà.
Il y a une très belle chanson de Charles Trenet qui s'appelle « C'est un potager extraordinaire ». C'est un potager extraordinaire. Oui, donc je vous invite à nous entraîner dans votre jardin. Alors, nous sommes au potager de Claude Colliot.
Oui, on est sur le bord de Loire, un village s'appelle Saint-Gondon, près de Gien. Donc on est à 2 km de la Loire, donc avec une terre qui s'apprête vraiment à faire de bons légumes. Et les tomates, alors je suis aidé par un ami qui s'appelle Didier Pille, qui est maraîcher depuis toujours, qui lui se trouve du côté de Saumur. Et donc pour faire de bonnes tomates, il faut avoir de bons plants. Et il faut les graines, donc on peut utiliser pendant une quinzaine d'années à peu près les mêmes graines, donc... On récupère des tomates, on les mange pas toutes et on fait des graines et ça dure à peu près une quinzaine d'années.
C'est pas interdit par la loi, ça?
Non, c'est pas interdit.
Non, je croyais que les semences
oui,
sauvages...
Oui, il faut faire les semences, ouais. On en rachète de temps en temps. Mais si on écoutait la loi, on ne mangerait que des mauvaises tomates maintenant.
On est bien d'accord.
Donc, et puis il faut aimer ça et il faut... tout prévoir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un terrain formidable pour les accueillir. Nous, on travaille vraiment, Didier m'a appris à travailler la terre, à la nourrir correctement. Et puis, il faut faire attention aussi, on parle toujours de bio. Nous, on n'est pas bio, on fait mieux, parce que le bio, quelquefois dans les traitements, tue toute la biodiversité. Alors que nous, les tomates, suivant les saisons, si elles sont pluvieuses, il y a des maladies, on cible la maladie au lieu d'éradiquer toute la diversité. Donc on met des petites bêtes qui vont manger les autres petites bêtes pour protéger nos tomates.
Alors cette année, les tomates, c'était une catastrophe un peu puisque...
Alors c'était une catastrophe pour ceux qui ont voulu planter trop tôt, comme tous les ans. Il faut vraiment attendre. Après, il fallait protéger. Donc nous, on a soit des petites serres, soit des serres, j'appelle ça des serres individuelles. Donc, et puis il fallait être patient. Donc il fallait vraiment protéger. Parce que l'eau, c'est la première chose qui vraiment apporte la maladie. Il fallait bien traiter nos terrains. Donc il fallait de l'herbe le plus loin possible parce qu'il y a beaucoup de petites bêtes qui se promènent dans l'herbe. Donc elles sont porteuses de maladies. Elles attaquent directement les plantes. Donc il fallait être très présent. On a plus d'un mois de retard sur la saison, mais comme on a eu de la chance, on a des tomates qui sont... on a su être patient, elles sont gorgées de soleil, et là, on va avoir une saison qui va aller jusqu'en octobre, si tout va bien.
Ces dernières bonnes tomates, quelles sont-elles et comment on arrive à les distinguer des tomates F1?
Je pense que vous prenez deux tomates, c'est quand vous achetez des tomates et vous voyez qu'elles ne pourrissent pas dans votre frigo au bout de 3-4 jours, qu'elles ne mûrissent pas, qu'elles sont... c'est pas les bonnes tomates. Vous le voyez au goût, vous le voyez en les coupant, elles ont plus de chair, elles sont croquantes, enfin elles n'ont plus rien d'une tomate, elles ont été complètement transformées. La peau, on dirait du pneu, tout ça au détriment... pour qu'elles soient mieux transportées, pour qu'elles résistent aux maladies. Elles ont été transformées génétiquement et c'est une catastrophe au niveau du goût. Alors nous, on a privilégié le goût, Donc c'est beaucoup plus... Alors il faut des variétés, donc on a plein de variétés, on voit aujourd'hui sur les étals, mais des variétés...
Lesquelles ?
Alors la cœur de bœuf, maintenant, elle a été aussi transformée, il faut faire attention. Mais la cœur de bœuf, c'est une tomate extraordinaire qui est pleine de chair. Moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps des cœurs de bœuf qui avaient été transformés, ils en ont fait des tomates classique avec des pépins à l'intérieur, peu de chair, pas de jus, rien qui enfin une tomate c'est avant tout de la chair et puis il faut les cueillir à maturité. C'est ce que nous on fait dans le potager, c'est-à-dire que on les cueille et on les cueille le lundi soir pour les donner à nos clients le mardi, le mercredi, plus elles mûrissent sur l'arbre et meilleures elles sont, elles peuvent pas mûrir. Une fois qu'elles sont cueillies, vous pouvez pas laisser ça ne mûrit pas dans un frigo. Donc nous, on évite que nos légumes passent dans les frigos. Le frigo, le froid tue quand même une partie des légumes. Et surtout la tomate, c'est très fragile. C'est un peu comme la fraise, hein, c'est le même, la même fragilité.
C'est un fruit.
C'est un fruit.
Mais Claude Colliot, les gens qui habitent près de votre potager,
oui.
J'imagine qu'ils font comme vous, ils vont chez votre copain maraîcher.
Alors ben non, malheureusement. Alors moi, mon petit village se trouve à côté d'une ville qui s'appelle Gien, qui est en bord de Loire, qui est un magnifique château. Sur cette Loire, il y a deux rives. D'un côté Gien, de l'autre côté Poilly-les-Gien. Du côté de Gien, il y a le long de la Loire une énorme grande surface où les gens vont remplir leur caddie de tout. Il suffit qu'ils traversent la Loire. Il y a juste un petit pont qui est magnifique, et sur ce toute petite route qui longe la Loire. Vous avez plusieurs maraîchers. Vous avez un monsieur qui s'appelle Monsieur Chigaud, qui travaille admirablement et qui ouvre 3 à 4 jours par semaine pour que les gens viennent acheter. Très peu de gens viennent. Vous avez juste à côté son cousin qui fait du miel, qui fait des noix, qui fait donc de l'huile de noix, qui fait des pommes, des poires. Et les gens préfèrent rester dans la grande surface puisqu'ils mettent tout dans le caddie. Alors que de ce côté, il y a même des gens qui élèvent des petites chèvres et qui font d'excellents fromages. Il suffit de traverser en vélo ou en voiture. Vous remplissez d'un côté. Et ce que ne savent pas les gens, c'est qu'en allant directement chez les maraîchers ou chez ce monsieur qui fait des pommes et des poires, ils ne payent pas plus cher, voire moins cher, parce qu'on leur vend vraiment de la qualité. Et la qualité, il n'y a pas de perte. Vous avez du goût. C'est important de savoir que la traçabilité de ce qu'on avale, c'est important pour notre corps, parce que les produits achetés dans les grandes surfaces sont tellement traités pour que ça dure très longtemps, n'ont ni goût, et je pense posent des problèmes de santé à long terme.
Mais alors, il faut quand même manger des tomates.
Entrez.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Nuit et jour, ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour se fouiller cravate. La tomate en salade ou tomate farcie.
Alors.
Ah mais moi je suis d'accord, nuit et jour, mais seulement 3 ou 4 mois par an.
Oui,
parce que la tomate, on n'y en a pas en hiver. Alors si vous trouvez les tomates en hiver, bah, posez-vous les bonnes questions. Elles viennent soit du Chili, donc elles ont été transportées en avion. Donc je vous laisse imaginer à quel degré on les a cueillies, donc certainement pas mûres. Après elles prennent l'avion, elles sont en permanence dans des frigos, elles ont dû être traitées, elles ont été traitées pour résister au choc. Enfin c'est pas des tomates, c'est des... Mais ça n'a aucun intérêt gustatif, aucun.
Mais Claude Colliot, quand on a commencé à manger des tomates en France... Bon, c'était bien après que les Espagnols les fait débarquer peut-être d'abord à Naples au moment des grandes découvertes. Mais je crois qu'on a commencé à les préparer uniquement en sauce.
On a commencé à cuisiner en faisant des sauces.
En faisant des sauces.
Voilà. Et puis après, on a commencé à les manger crus. Parce qu'on s'est aperçu qu'en les cueillant vraiment mûrs, je crois qu'on appelait ça la pomme d'amour. Parce
la pomme,
que quand c'est d'amour, très mûr,
la pomme
oui.
d'or.
Oui, et quand c'est très mûr, c'est vrai que c'est un fruit, c'est très bon. Mais il faudrait que les gens imaginent que, enfin, c'est pas s'imaginer, il faudrait qu'ils retrouvent ce qu'est une vraie tomate. C'est-à-dire que quand vous croquez dedans, cette chair, on la trouve nulle part ailleurs, dans aucun autre fruit ou légume.
Est-ce qu'on peut, même sur un balcon, dans une grande ville, est-ce qu'on peut planter des tomates?
Oui, il faut un grand pot, vous mettez un bon terreau, il faut en prendre soin. C'est-à-dire qu'il faut éviter la pluie. Ça, la pluie, le vent, il faut vraiment que ce soit à l'abri. Il faut pas trop arroser, donc c'est le problème de toutes ces tomates aussi qui ont été transformées. Ils arrosent pour les faire grossir, elles sont gorgées d'eau, donc plus il y a d'eau, moins il y a de goût. La tomate, c'est un peu comme la vigne, elle doit souffrir. Une fois qu'elle a commencé à faire ses premières fleurs, il se forme des collerettes, il y a une première collerette. Donc elle monte, il faut enlever quelques fleurs. Parce que si vous laissez faire trop de fleurs la première collerette, elle va faire des fruits et après elle va pas monter. Alors que si vous enlevez des fleurs, donc ainsi que les gourmands, vous savez les gourmands, c'est ces petites tiges qui viennent se former entre les vraies tiges et la tige centrale, il faut les enlever. Tout ça prend trop de force. Donc il faut enlever les gourmands. C'est un suivi au quotidien. Et les premières fleurs de la première collerette, pour que la tige de la tomate continue de monter, et va former d'autres collerettes. Moi, j'en ai aujourd'hui, elle monte jusqu'à 3 mètres de haut. Et il y a des tomates jusqu'à 3 mètres. Donc, il faut enlever des fleurs. Il faut pas trop concentrer sur certaines collerettes. Et les gourmands. Et donc, il faut effeuiller. Il faut vraiment prendre soin. Mais sur un balcon, bien sûr.
Et on peut planter quel type de tomates?
Toutes. Alors, c'est vrai que quand vous avez des enfants, c'est marrant de planter des tomates qui sont ce qu'on appelle les tomates cerises. Il y en a toutes les couleurs. C'est moins fragile. On les a plus tôt que les tomates, les grosses tomates, comme la tomate cœur de bœuf, ça. Et quand on a des enfants, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on en fabrique plus sur les branches. Et les enfants, quand vous les laissez mûrir et que vous les cueillez, qu'elles sont chaudes, vous avez choisi vraiment des bons plants de tomates, c'est des bonbons. Après, on peut faire des grosses tomates sans aucun problème. Ce qu'il faut vraiment, il faut abriter, protéger du vent, de la pluie, et en prendre soin. Mais tout le monde peut en faire.
Quelles sont les espèces que vous... Enfin, est-ce qu'on parle d'espèces, d'ailleurs? Est-ce qu'on dit...
Bon, oui, on peut dire des espèces.
On peut dire des espèces.
Vous avez toutes les zébras. Alors, il y a la green zebra, qui est cette tomate qu'on voit un peu de plus en
verte,
plus.
Un peu translucide,
verte,
oui.
Un peu translucide, avec des... qui est zébré, pour ça qu'on l'appelle zébra, un peu couleur or. Elle existe aussi en noir. Nous avons aussi la perle de lait. Alors ça, il y en a très peu. C'est un jaune, c'est une petite tomate, un peu bosselée, un jaune très pâle. Alors c'est pas un jaune comme la jaune ananas qui donne envie de croquer dedans. Elle a peu d'acidité. Elle a une chair légèrement croquante. Vous avez la cornue des Andes, c'est cette tomate qu'on voit aussi, mais qui était un peu abîmée parce que les gens l'ont transformée. La cornue des Andes, c'est cette tomate pointue.
Pointue et un peu
bosselée.
Et un peu bossue.
Un peu bossue, et souvent au bout de la pointe, il y a une...
petite verrue.
Une petite verrue, une petite chose comme ça. Alors ça, quand c'est bien mûr, là, vous êtes dans la force. C'est très puissant comme goût. C'est une tomate qui un peu de fort de sel. Et vraiment, je trouve qu'elle a un goût... elle est très rouge à l'intérieur quand elle est très mûre. Et elle est assez puissante.
Alors, vous pouvez prononcer le nom de puissante, oui. Toutes ces tomates viennent toutes à l'origine d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale.
Oui, c'est le Pérou. Entre la cordillère des Andes et puis le Pacifique, c'est de là où on a trouvé le plus de variétés.
Si on parle des usages, vous qui êtes cuisinier, restaurateur, Claude Colliot, comment préparez-vous ces tomates pour faire une tomate farcie, par exemple?
Alors, pour faire une tomate farcie, il faut des tomates comme la Sankara, qui est une tomate qui a justement une chair et une peau qui tiennent bien.
Parce que la tomate farcie... Alors, la Sankara, ça ne s'écrit pas comme chez des bijoutiers.
Non.
Hein. C'est C-E-N-C-A-R-A.
Hein. Oui, et donc, il faut une chair quand même assez ferme qui va résister, qui ne va pas s'éclater trop rapidement au four. Moi, le problème, c'est que ma cuisine, elle privilégie la qualité du produit. Et la tomate, quand elle est mûre...
Vous la préférez crue?
Je la préfère crue, parce que c'est là où... où elle est le meilleur, donc on lui ajoute des petites choses.
Alors qu'est-ce que vous lui ajoutez?
Un peu d'assaisonnement pour un peu d'acidité, un petit peu de citron vert, des petites choses comme ça, parce que ça révèle toujours, l'acidité vient toujours réveiller un peu les papilles et le goût des produits. Un peu de fleur de sel, mais très peu, parce qu'il ne faut pas tuer non plus par le sel. voilà, si vous avez une petite purée d'olive, très, mais des petites choses où là en ce moment on a de la menthe bergamote qui sent très peu la menthe, mais qui a un côté un peu puissant comme du basilic. Il n'y a pas grand-chose à faire. Après, si on veut les cuisiner...
Et vous les mélangez dans ces cas-là ?
Moi, je les mélange, oui. Je les mélange parce que je trouve que c'est agréable de passer...
À l'œil ?
D'abord à l'œil, c'est magnifique.
Et vous les coupez dans quel sens ?
Dans tous les sens. Alors, je ne respecte rien.
D'accord.
Je ne respecte rien parce que dans la même assiette, j'aime couper les tomates suivant la forme. C'est bien d'avoir des tailles différentes dans la même assiette. Parce que, ou même quand vous coupez... la mâche est différente, ou même la même tomate, quand vous la coupez en rondelles ou en gros carrés, on n'a pas l'impression de manger la même tomate. Donc ça, c'est intéressant. Puis la chair, suivant comment on la coupe, elle est différente, elle brille. Je vois la tomate orange, on a l'impression qu'il n'y a que de la chair dedans. Elle a une taille d'une bonne pomme golden. Un vrai orange, bien prononcé. Et quand vous coupez, l'intérieur est vraiment orange, il y a très peu de pépins, beaucoup de chair. Et moi, ce que j'adore, c'est quand on est cuisinier, on touche la matière. Et l'intérieur est d'une douceur, on dirait du velours. Velours légèrement humide, c'est superbe. Et là, vous pouvez la couper juste en quatre, avoir des gros morceaux comme ça. Et puis c'est beau, quoi. Les couleurs sont vives, elles sont magnifiques.
Et comment on dit tomate en anglais ?
Tomatoes.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either. I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off.
Claude Colliot, comment nourrissez-vous vos tomates ?
On prépare la terre bien avant de planter. Donc on prépare, on retourne. Après, on fait les plants. Donc on apporte des copeaux de bouleau sur 15 cm d'épaisseur. Donc c'est du bois qui n'a jamais été traité, donc on est tranquille. Après, ce bois, il va les racines vont se nourrir, vont récupérer l'azote, tout ce qu'elles ont besoin pour vivre, et tout ce qui est oligo-éléments, lignite, acides aminés. En se détruisant, ces copeaux vont fabriquer un humus naturel. Ça évite que l'herbe pousse et on garde l'humidité. Donc, la tomate, elle aime l'eau, mais pas au départ. Faut la laisser souffrir. Faut en mettre juste au moment où vous plantez, un tout petit peu. Et après, vous laissez faire. Vous laissez faire la nature. On commence à réarroser, surtout pas de goutte à goutte. Vous savez, ce fameux goutte à goutte où... C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien. On laisse, on se décide que toutes les deux minutes, il y a une goutte qui vient. Non, ça, ce n'est pas bon du tout. Parce que ça veut dire qu'on ne gère plus par rapport à la nature.
Pas de hors-sol non plus.
Pas de hors-sol, surtout pas. Pas de hors-sol. Et pas de goutte à goutte.
Et pas de chimie non plus.
Et pas de chimie. Alors, la chimie, ça, c'est quelque chose qui est... Alors, vous savez, il y a les gens qui sont dans le bio à fond et qui vous disent, on est bio, on met de la bouillie bordelaise. Non, la bouillie bordelaise, je ne sais pas si vous passez dans les vignes, souvent dans le Bordelais, mais depuis le temps qu'ils en utilisent, il n'y a plus d'herbe. Et la bouillie bordelaise, le problème, c'est que c'est du cuivre et que le cuivre ne s'en va jamais de la terre. Donc, les années passent et on accumule le cuivre dans la terre. Et ce n'est pas bon du tout. C'est pas bon pour la santé. Nous, ce qu'on fait, on n'a pas fait des infections chimiques ou naturelles parce que quand vous faites ces désinfections de façon bio, comme ils le disent, vous tuez tout. Donc, vous tuez votre sol qui a ses propriétés. Donc ça c'est pas bon. Donc nous, quand on a des maladies, on a des produits, on travaille, alors ça c'est Didier qui est très spécialisé, il travaille avec les gens qui font sur le Val-de-Loire, qui s'occupent de la terre en bio, mais on a des produits pour cibler juste la maladie. Quand vous avez du mildiou, c'est pas la peine de traiter tout, il faut traiter que le mildiou, et le mildiou est apporté par la pluie.
Par l'humidité.
Voilà, l'humidité. Ces périodes où soit il y a de la pluie ou trop d'orage, et ça, c'est, il faut s'en protéger. Et ça, on a un produit que me fournit Didier, qui est un produit qui est vraiment spécifique au mildiou.
Comment récupérez-vous ces graines ?
Alors, moi, bon, ça, c'est Didier qui le fait. Moi, je suis équipé pour nourrir mes clients. J'ai mon potager. Il récupère, en faisant toute tomate qui n'est pas très jolie, on récupère les graines, il fait sécher, et après il faut 8 mois pour obtenir un plant. C'est-à-dire que au lendemain, ben, au mois d'octobre, on refait des plants sous serre et on fait pousser.
Quand on citait ces différentes variétés, oui. Les mots, est-ce que vous avez, vous, des préférences particulières ?
Non, mais moi, si on pouvait en planter des centaines, on le ferait, mais... Non, c'est pour ça qu'on n'en a qu'une dizaine. On essaye de choisir des tomates qui sont assez différentes les unes des autres. Pour justement, au niveau du goût, avoir des choses... et qui, elles mûrissent pas toutes non plus en même temps. Donc, on n'a pas du jour au lendemain toutes les tomates. Donc, on a des variétés plus précoces.
Plus précoces, ça veut dire fin juin.
Ah, ça veut dire fin juin.
Hein?
C'est-à-dire fin juin, si tout va bien. Si tout va bien, 15 juin. Cette année, on a commencé mi-juillet. Donc, avec un peu de chance, s'il fait beau, on ira jusqu'en octobre. Mais la saison, elle dure 3-4 mois. On a, en tout cas, sur le Val-de-Loire. Alors, c'est vrai que c'est plus précoce dans le sud.
Oui, en Sicile, c'est plus tôt.
En Sicile, c'est plus tôt. Mais bon, les tomates en hiver en Sicile, ça n'existe pas. Ou alors...
En pot,
voilà.
En coulis. Voilà. Oui.
Sur le Val-de-Loire, maintenant, pour réussir les variétés que l'on a, on est quand même obligé de les abriter. Si on fait sans abri, on a trop de maladies. C'est trop compliqué.
Mais Claude Colliot, pour vous, la tomate, c'est plutôt un fruit ou plutôt un légume ?
Alors, dans mon jardin, c'est plutôt comme un fruit, parce que je les cueille, elles sont chaudes. C'est le petit plaisir. En restaurant, on a plutôt tendance à la travailler. Je fais de temps en temps des desserts. On la fait un peu confit. On fait des choses comme ça. On l'agrémente de noix, noisettes, une petite glace qui vient fondre sur une tomate chaude. Ça, c'est très bon.
Une glace à la tomate ? Un sorbet à la tomate ?
Non, je fais pas de sorbet à la tomate. Si je fais un sorbet à la tomate, ce serait plutôt rafraîchissant en entrée, un peu comme les gazpacho. Voilà. Alors ça, c'est plutôt... Quand on a fini la saison et qu'on a des tomates qui commencent à être trop mûres, on peut s'en servir justement pour faire des jus, mais quand je suis en pleine saison, j'aime les manger crus et les servir en salé. Mais on ne sale pas trop, donc j'aime bien les servir aussi en accompagnement avec une viande rôtie. On n'est pas obligé de la manger en entrée. Petite assiette de tomates quand elles sont bien mûres comme ça pour accompagner.
Mais crues, voilà. Encore.
Crues, oui.
La tomate.
La tomate pomponnée, riche, brillante et pulpeuse. C'est joliment maquillé. La tomate, en vérité, est morose.
Amère même, oserais-je dire. Car depuis qu'on l'a trouvée en Amérique du Sud, on s'obstine à la manger en légumes.
On la met à toutes les sauces. On la réduit, on l'écrabouille, on la met dans les ratatouilles, on la mélange avec des nouilles, on la farcit.
Si la tomate pouvait parler, elle nous dirait, vous vous trompez. Vous ne faites pas de sauce aux prunes, ni d'abricots. En béchamel, je suis un fruit, pas un légume.
La tomate rêve d'être mangée en salade, oui, mais avec du sucre, comme les fraises, ou bien en tarte, avec de la chantilly dessus, ou bien sans rien, mais en dernier.
Alors en dernier, en dernier, c'est Monsieur Siracusa, Gérard Siracusa, qui fait parler des légumes et des fruits.
Et les fruits.
Claude Colliot, si alors là je m'adresse plutôt aux cuisiniers, si vous deviez nous faire une recette à base de tomates, que nous feriez-vous là maintenant dans le studio?
Là maintenant, je prendrais mes tomates qui sont plus mangeables crues, c'est-à-dire celles qui sont très mûres, un peu abîmées, et j'enlèverais la peau et je les ferai légèrement confire dans un petit sirop avec un peu de poivre, du basilic, puisque je pense qu'il faut associer les choses de saison. Donc là, on est dans des produits comme ça. Et puis, très peu de temps, et puis je la sortirai comme ça, je la mettrai dans une fonte d'une assiette avec son petit jus de... son petit sirop de cuisson. Et je viendrai soit mettre, parce que dans notre région, on a de très bonnes faisselles, de brebis, des choses comme ça. Ou alors, je ferai une jolie glace nature, légèrement vanillée, qui vienne fondre dessus. Et on se régalerait. Voire même, on se brûlerait avec, mais on aime tellement ça.
Et Claude Colliot, si on faisait une tarte à la tomate?
Si on faisait une tarte à la tomate, alors il faut choisir une tarte qui ne rentre pas trop d'eau. Mais ça, on a toutes nos tomates... comme elles sont charnues et on ne les a pas trop arrosées, on n'a pas de problème. Mais on peut faire une tarte à la tomate, vous la voulez sucrée ou vous la voulez salée?
Ben les deux.
Les deux?
On en veut une salée, ben une sucrée.
Ben oui, mais je pense qu'on peut faire la même. Toutes les deux sur une pâte feuilletée. Et il y en a une sur laquelle, au dernier moment, on lui met un tout petit peu d'huile d'olive, on lui fait un petit râpé de réfort. Et la même, il suffit de lui saupoudrer d'un peu de cassonade et quelques feuilles de menthe ou de basilic. Et je pense que... elles seront contentes toutes les deux.
Claude Colliot,
c'est un bon feuilletage.
Claude Colliot, est-ce que vous savez ce qui vous relie à la tomate?
Bah, je crois que quand on est chef et qu'on aime les produits, on peut pas passer à côté. D'abord, moi, je fais toutes les saisons, donc la tomate, c'est, enfin, on l'attend.
C'est comme, la fin de l'été.
Oui, enfin, on est en, enfin, quand on les plante, c'est plus long. C'est-à-dire qu'on puis on les élève vraiment. Une pomme de terre, vous attendez que tout fane, qu'il n'y ait plus rien pour aller les chercher. La tomate, faut vraiment l'élever, faut vraiment prendre soin. Elle est en extérieur. Et comme je disais, faut enlever les fleurs, faut faire ceci, faut les éloigner les unes des autres. On n'a pas parlé parce que si c'est pas la même variété, alors c'est, elle a comme particularité de il n'y a pas besoin d'abeilles, donc il faut vraiment prendre soin. Donc c'est, on l'accompagne longtemps, hein. on l'a planté, enfin on a mis les plants juste après les saints de glace, donc on est en début mai, voilà. Donc et après il faut les couvrir, les découvrir. Donc et quand vous allez jusqu'à septembre octobre pour cueillir les dernières, je trouve qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble. Et ça, je trouve que c'est... enfin, en tant que chef et en même temps maraîcher, ça, c'est super. C'est des enfants, hein. Et c'est tellement bien d'accueillir et de donner à ses clients. Enfin, moi, je vois la différence. Je vois les gens sont heureux. Ils sont heureux et pourtant, on leur sert juste, comme on dit, juste des tomates avec un filet d'huile d'olive. Mais ça change tout.
Merci beaucoup, Claude Colliot. Ben, on va peut-être se dire au revoir avec Bob Azam.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa.
Attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Krugère, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Jehan-Richard Dufour, et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission éternellement en mangeant des tomates, et vous pouvez, enfin des tomates en saison, hein. Et vous pouvez aussi la podcaster, la télécharger, et dans quelques instants, le journal sur France Culture.